Vous êtes avec SBS French.
Dans les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, eh bien, le décès du joueur de cricket Shane Warne, célébrité donc du cricket, décédé en Thaïlande à l'âge de 52 ans. Et les États-Unis et leurs alliés ont vivement critiqué la Russie à l'ONU pour son bombardement et la saisie de la plus grande centrale nucléaire en Europe. On fait le point de tout ça dans notre journal. Et on commence donc avec le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a salué la décision de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur d'éventuels crimes de guerre à la suite de l'invasion russe en Ukraine. L'enquête pourrait viser des hauts responsables, présumés responsables donc de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou encore de génocide. Monsieur Stoltenberg a déclaré également que l'invasion de son voisin par la Russie était une violation flagrante des droits internationaux, mais que l'intervention sur le terrain était exclu. On l'écoute.
En tant qu'alliés de l'OTAN, nous avons la responsabilité d'empêcher cette guerre de s'étendre au-delà de l'Ukraine, car cela serait encore plus dangereux, plus dévastateur. Nous avons donc clairement indiqué que nous n'entrerons pas en Ukraine, que ce soit au sol ou dans l'espace aérien ukrainien. Parce que bien évidemment, la seule façon d'instaurer une zone d'exclusion aérienne est d'envoyer des avions de chasse de l'OTAN dans l'espace aérien ukrainien et d'imposer cette zone d'exclusion aérienne en abattant des avions russes. Mais nous savons que si nous agissions ainsi, nous nous retrouverions avec quelque chose qui pourrait aboutir à une guerre totale en Europe, une guerre qui impliquerait beaucoup plus de pays et qui causerait beaucoup plus de souffrances humaines.
C'était Jens Stoltenberg, le chef de l'OTAN. Les États-Unis et leurs alliés ont vivement donc critiqué la Russie aux Nations Unies pour le bombardement et la saisie donc de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Certains exigeant que la Russie ne laisse pas une nouvelle attaque comme celle-ci se reproduire. Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a déclaré lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de 15 membres, qui avait d'ailleurs été convoquée à la suite de la saisie donc de la centrale nucléaire en Ukraine, et elle se situe au sud-est du pays, que tout le monde, le monde avait évité de justesse une catastrophe nucléaire. On l'écoute.
By the grace of God, the world narrowly averted a nuclear catastrophe last night. We all waited to exhale as we watched the horrific situation unfold in real time. Russia's attack last night put Europe's largest nuclear power at grave risk. It was incredibly reckless and dangerous, and it threatened the safety of civilians across Russia, Ukraine, and Europe.
Une première pour l'ONU et au Conseil des droits de l'homme. Une résolution a été votée visant directement la Russie. Le texte condamne les violations des droits de l'homme et demande donc l'envoi d'une mission d'enquête, décision très symbolique, mais qui montre l'isolement grandissant de la Russie. Jérémy Lange pour RFI.
La résolution a été légèrement édulcorée. Plus question, par exemple, de mentionner les exactions au Donbass et en Crimée. Mais le texte demande tout de même le retrait des troupes russes et de leurs alliés de tout le territoire internationalement reconnu de l'Ukraine, ce qui veut dire y compris dans les zones séparatistes. Des enquêteurs doivent récolter des preuves de violation des droits humains en vue de futurs procès, même si on ne sait pas encore quand et comment ils vont pouvoir travailler. Mais ce qu'il faut retenir de la résolution, c'est peut-être moins son contenu très théorique que le résultat du vote. Alors que la Chine, le Venezuela et Cuba s'étaient opposés il y a quelques jours à la tenue même d'un débat urgent sur l'Ukraine, ils se sont cette fois abstenus, laissant la Russie voter non avec seulement l'Érythrée. Après le vote, l'ambassadrice ukrainienne s'est adressée aux diplomates russes et biélorusses en les incitant implicitement à faire acte de dissidence.
Et c'était Jérémy Lange pour RFI. La crise humanitaire est grave, vous vous en doutez. Plus d'un million de personnes ont quitté l'Ukraine vers la Pologne ou encore la Roumanie. Écoutez d'ailleurs le témoignage de cette habitante de Kiev qui venait tout juste d'arriver en Roumanie.
Quand j'ai passé la frontière, j'ai été très surprise de voir autant de personnes qui m'accueillaient du côté roumain. qui littéralement me forçaient à prendre de la nourriture et me proposaient leur aide de toutes les manières possibles, pour mes bagages ou en m'indiquant le chemin vers le bus. Je ne m'attendais pas à un tel degré d'hospitalité et de volonté d'aider. Quand nous sommes arrivés ici, nous pensions aller à l'hôtel, nous en avons les moyens. À la réception, on nous a dit que c'était complet, mais qu'il y avait cet endroit, ici, une grande pièce chauffée où nous pouvons dormir. Là aussi, en arrivant, j'ai été étonnée de toutes les aides que l'on nous fournit. Pour le transport, on entend tout le temps des annonces, un bus pour l'Autriche, un bus pour l'Allemagne, pour Cracovie, pour Varsovie, etc. Ma sœur était là avec son chien et un vétérinaire s'est approché et lui a demandé si tout allait bien. Je veux dire, c'est vraiment très très touchant.
Le joueur de cricket Shane Warne est décédé en Thaïlande à l'âge de 52 ans d'une crise cardiaque alors qu'il était en vacances avec des amis. Shane Warne est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de cricket de toute l'histoire, crédité d'avoir contribué à tout simplement rajeunir la technique du spin bowling. Il est également le seul batteur à avoir marqué plus de 3000 points dans sa carrière et remporté le plus de séries des Ashes que tout autre Australien de toute l'histoire. La nouvelle est arrivée moins de 24 heures après la mort de son compatriote, un autre Australien, donc Rod Marsh, une autre légende du cricket qui a d'ailleurs secoué l'équipe de test australienne qui est actuellement au Pakistan. Shane Warne reste donc dans les mémoires comme un personnage unique avec une joie de vivre. L'agence de presse Reuters a rapporté que l'un de ses amis lui a pratiqué un massage cardiaque avant l'arrivée de l'ambulance. Shane Warne a donc par la suite été transporté à l'hôpital international thaïlandais et bien n'a pas pu être réanimé. La police thaïlandaise affirme que la mort n'est pas considérée comme suspecte. Le capitaine australien Pat Cummins a déclaré à Seven bien que Shane Warne était son héros quand il était petit, le joueur favori de tous les temps.
Guys in this team and squad who still hold him as a hero, their all-time favorite player, and the loss that we're all trying to wrap our heads around is huge. It's been a really tough day, a couple of days for Australian cricket after the passing of Rod. We just wish, you know, the best to both families, especially Shane's parents and his kids.
Voilà, donc 13h09, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Aux États-Unis, la Cour suprême a rétabli la peine de mort pour l'un des deux responsables de l'attentat du marathon de Boston. Jokhar Tanzarziev, est aujourd'hui âgé de 28 ans. Depuis Washington, les explications de Guillaume Nodin.
3 morts et 260 blessés, c'est le bilan de l'attentat à la bombe perpétré par Jokhar Tsarnaev et son frère aîné Tamerlan, tué lui dans la traque menée les jours suivants contre les deux coupables. Car la culpabilité de Jokhar Tsarnaev, reconnu pour 27 chefs d'accusation, n'a jamais été remise en question. Ce qu'il a été, c'est la procédure et notamment la sélection du jury qui, selon la cour d'appel qui avait suspendu le verdict, n'avait pas été menée avec suffisamment de soin pour s'assurer que les jurés n'avaient pas été influencés par le large écho médiatique de l'affaire. De plus, les mêmes juges avaient estimé que Tamerlan Tsarnaev avait déjà tué et que son frère cadet aurait payé en quelque sorte pour son frère, en réalité beaucoup plus dangereux que lui. Des vices de procédure qui n'ont donc pas été retenues par la Cour suprême, elle rend une décision partagée qui correspond à son actuelle ligne de fracture, 6 conservateurs contre 3 libéraux. C'est le juge Clarence Thomas qui rédige les arguments de la majorité. Il estime que le droit de Jokhar Tsarnaev à un procès équitable et impartial a été respecté. Les juges libéraux estiment quant à eux que la culpabilité de Tamerlan Tsarnaev dans les meurtres précédents aurait pu changer l'opinion du jury si ces éléments avaient été retenus. Un seul, en revanche, fait part de ses doutes sur le fond quant à la peine de mort. C'est le juge Stephen Breyer, qui part bientôt à la retraite.
Et c'était Guillaume Nodin pour RFI. Il est 13h10, on va parler de politique en France. La course au parrainage pour l'élection présidentielle est officiellement terminée depuis hier soir 18h heure de Paris. Les listes ou la liste définitive des candidats sera déposée lundi et sans grand suspense, le président sortant Emmanuel Macron est candidat à sa réélection et après une lettre adressée aux Français dans la presse régionale, c'est par une vidéo qui s'est donc adressée aux Français. Valérie Gasse.
Palais de l'Élysée, le 3 mars, Emmanuel Macron et son chien Nemo apparaissent à l'image. Ils montent un escalier, la caméra les suit jusque dans le bureau du président et une conversation s'engage avec le réalisateur de la vidéo, Stéphane Gillot. Gros plan sur Emmanuel Macron qui s'explique.
J'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, essayer d'agir et dans le même temps, voilà, je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français.
Le ton est posé, la musique enveloppante, les images léchées. Elles donnent à voir un président au travail, autrement dit un candidat pas comme les autres, sous le poids des responsabilités, mais qui dit vouloir jouer le jeu de la campagne.
Moi, j'arrive à cette élection avec une... D'abord en étant déterminé, en voulant continuer à bouger les choses, à préparer l'avenir pour nos enfants. Ensuite, en étant très humble, parce que je sais que rien n'est écrit.
Une manière de répondre à ceux qui l'accusent de vouloir enjamber la campagne et d'afficher sa posture d'humilité, mais aussi de se montrer proche, accessible, d'essayer de créer le lien. C'est le premier épisode d'une série vidéo diffusée sur les réseaux sociaux intitulée « Le candidat ». Emmanuel Macron donne rendez-vous aux Français chaque vendredi à 18h jusqu'au premier tour. Cette fois, la campagne est lancée.
Et c'était Valérie Gasse pour RFI. Alors Emmanuel Macron, candidat, en face, on multiplie les offensives. Aurélien Devernoy.
Un site 108.fr dédié à la critique du bilan Macron du côté du Rassemblement National, une avalanche de visuels sur les réseaux sociaux pour les Républicains, un message vidéo d'Éric Zemmour et une cohorte de communiqués sortis dans la seconde suivant l'apparition de la lettre de candidature du chef de l'État. Les aspirants à la présidence piaffaient d'impatience à l'idée de pouvoir se mesurer à Emmanuel Macron qui caracole en tête des intentions de vote. Le débat démocratique projet contre projet va enfin pouvoir se tenir, lance ainsi la socialiste Anne Hidalgo. Depuis des semaines, toutes et tous n'ont que le chef de l'État à la bouche, critiquant son mandat, l'appelant au débat, avec l'espoir de s'imposer comme la candidature d'alternative, celle que les Français choisiront pour figurer dans un second tour où le président sortant semble déjà avoir réservé sa place. Mais encore faut-il qu'il y ait débat dans un espace médiatique saturé par la guerre en Ukraine et où Emmanuel Macron va bénéficier au maximum de son statut de chef d'État. L'inquiétude est réelle dans les oppositions et notamment à l'extrême droite et chez Jean-Luc Mélenchon où l'on craint l'impact des ambiguïtés passées vis-à-vis de la Russie. Pas sûr que le tous contre Macron suffise à ralentir la course du président vers un second mandat.
13h13, coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 32 degrés, Adélaïde 25, Melbourne 21, il fera 25 à Hobart, 25 à Canberra également, 28 degrés à Sydney, 30 degrés à Brisbane, 36 degrés à Cairns et 34 degrés à Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité pour ce 5 mars. Le joueur de cricket Shane Warne est décédé à l'âge de 52 ans alors qu'il était en vacances en Thaïlande. Et on l'a vu dans ce journal également, les États-Unis et leurs alliés ont vivement critiqué la Russie à l'ONU pour son bombardement et la saisie de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Et en France, c'est officiel, Emmanuel Macron est candidat à sa réélection. 13h14, courte pause et on passe au sport tout de suite après ça.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.